Voilà, je vais prier pour le message que Dieu nous conduise maintenant et prier aussi pour les enfants dans ce qu'ils vont recevoir. Dieu notre Père, merci de nous aider à être en mode écoute maintenant, que ce soit nous, que ce soit les enfants, et que ce que nous allons recevoir puisse vraiment nous encourager et nous transformer à ton image. Nous nous attendons à toi, que vraiment tu agisses parmi nous. Merci de encore me remplir de ton esprit et de tes paroles dans ce que je vais donner ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vais parler de l'un des messages les plus fous. Des milliers de personnes se moquent de ce message. Des milliers de personnes pensent que ceux qui croient à ce message sont bêtes, idiots, faibles et sans intelligence. Il y a aussi des personnes qui sont tellement contre ce message qu'ils persécutent et tuent ceux qui y croient et le proclament. Il y a aussi une chose qui est vraiment bizarre. C'est que pourtant, même si ce message est incompris, que les gens trouvent bête ceux qui y croient, il y a un truc qui est bizarre là-dedans. C'est que pourtant, ce message, nous en avons tous besoin. Ce message est une folie, mais en même temps, nous en avons tous besoin. Quelques questions simples. Ne voulons-nous pas être tous les jours en sécurité? Ne voulons-nous pas réussir dans la vie? Ne voulons-nous pas être totalement satisfaits et ne plus vivre de frustration? Ne voulons-nous pas être tous les jours en paix? Ne voulons-nous pas un bonheur sans fin? Un monde où le bonheur est présent et où il n'y a plus de souffrance, plus de haine, plus de rejet, plus de pauvreté, plus de favoritisme, plus d'adultère, plus de guerre? Ne voulons-nous pas être heureux et vivre éternellement dans le bonheur? Si quelqu'un arrive à ne pas lever la main à ça, quand si je posais la question de lever la main, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. On veut tous ça et on court tous après cela. Nous avons tous ces mêmes aspirations. Ce message, qui est une folie pour plusieurs, eh ben, répond à toutes ces aspirations. Ce message promet le paradis. Mais des milliers de personnes le rejettent, c'est illogique cela. Mais heureusement, un nombre innombrable de personnes ont connu ce message, l'ont accepté et ont expérimenté un amour, une joie, une paix qu'ils ne veulent surtout pas perdre. C'est ce qu'on a entendu d'Augustine. Je ne veux pas du tout perdre cette affaire qu'il y a entre moi et Dieu. C'était marrant. Ce message dont je vais parler s'appelle l'Évangile. L'Évangile. Nous l'avons entendu plusieurs fois ce matin, par les chants, par les témoignages. À l'église de soir, nous croyons à l'Évangile. Nous croyons en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons que son sacrifice nous libère du péché et offre la vie éternelle dans un paradis où le mal, le péché, la souffrance, les puissances maléfiques et la mort ne seront plus. Fini. Nous croyons que la justice de Dieu habitera sur une nouvelle terre. Sur cette nouvelle terre, nous vivrons dans un bonheur sans fin, un bonheur éternel. Certains diraient incroyable, mais vrai. C'est ce que la Bible dit, et nous y croyons. Mais tout ce que je viens de dire peut paraître fou et difficile à croire pour des milliers de personnes. Et peut-être ce matin, il y a des personnes ici qui entendent tout ça et se disent « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est quoi tout ça, là ? Un homme qui est Dieu, qui vient sur terre, qui donne sa vie, c'est bizarre ce truc. » Puis qui nous donne la vie éternelle. Comment on fait pour croire à un truc comme ça? Je vous rassure, je vous comprends. Je peux vous comprendre. Et même la Bible confirme que c'est une folie pour plusieurs. Mais je peux vous dire ce matin que si je suis croyant moi-même, Et si je suis même devenu pasteur, c'est parce que l'évangile, ce n'est pas du pipeau. C'est un message de vie qui transforme. C'est un message de vie qui permet de vivre en paix avec Dieu et d'expérimenter sa présence et son amour. Je me rappelle ma mère qui a tellement pleuré devant Dieu, qui a prié Dieu pour que je vienne à lui et ne devienne pas un délinquant. Alors quand vous me voyez, vous dites, comment est-ce possible que Manu, qu'on voit comme ça, puisse, sa mère puisse avoir de telles pensées? J'étais tellement insolent, les amis, tellement insolent, que ce soit envers elle, que ce soit envers les professeurs d'école, enfin, c'était terrible. Et j'étais en train d'aller vers mes 18 ans, et donc ma mère avait peur, elle se disait, mais un gars insolent comme ça, ça... Avec, dans le quartier où on était en plus, où on avait l'habitude de voir des feux d'artifice, dans le sens des voitures brûlées, la cage d'escalier, l'ascenseur, enfin, il y avait toutes sortes de choses à l'intérieur. Hein. J'évite de dire ce que j'ai vu. Mais voilà, on était dans un quartier où la drogue était chose du quotidien, et j'aurais pu tomber dans ça. Mais Dieu m'a transformé. Un jour, Dieu a touché mon cœur. L'évangile, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la puissance de l'évangile dans ma vie. Son amour, sa grâce, sa paix ont inondé mon cœur. Et j'ai commencé à aimer Dieu, à aimer les autres d'un amour que je ne connaissais pas. L'évangile, quelle puissance il y a dans l'évangile. La Bible que nous allons ouvrir dans quelques instants va nous permettre de comprendre et d'apprécier ensemble l'évangile. Et je rappelle que nous continuons une série de messages du survol du Nouveau Testament, puisque nous lisons le Nouveau Testament en 8 semaines. Un gros défi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et combien enrichissant pour avoir une vision globale qui nous aide à mieux connaître Jésus-Christ, sa mission, son message, l'aimer et le suivre. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 1. Nous lirons les versets 15 à 17 et n'ayez crainte pour ceux qui n'ont pas de Bible, le texte est affiché juste derrière moi. Voilà, je laisse juste le temps à ceux qui ont une Bible de trouver le texte. Romains chapitre 1 et je vais juste lire les versets 15 à 17. Voilà, je cite, « Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. » Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Amen. Un beau texte. Chose étonnante, très étonnante. L'homme qui a écrit ce texte a une histoire incroyable. Cet homme était avant ennemi des chrétiens. Il dit de lui-même ceci dans la Bible, en Actes chapitre 26. Nous allons juste regarder ces quelques versets. Écoutez ce que cet homme dit. « Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartiennent à Dieu et, lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre de renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. » Juste en lisant ça, on se dit « Waouh ! Quel ennemi des chrétiens !» Cet homme qui était ennemi des chrétiens est non seulement devenu chrétien lui-même, mais en plus, il est aussi devenu un solide proclamateur de l'Évangile. Alors qu'il s'approchait de la ville de Damas pour continuer sa mission contre les chrétiens, il a vu une lumière plus éclatante que le soleil. Et il dit lui-même, Jésus s'est adressé à lui et il a ce jour été transformé. Son cœur a été transformé. Depuis ce jour, cet homme n'a cessé de servir Jésus-Christ. Dieu l'a choisi et l'a utilisé pour annoncer un message fou, mais combien puissant, l'Évangile. Dieu l'a aussi choisi pour bâtir des églises et aussi enseigner les croyants afin qu'ils grandissent dans la foi. Cet homme s'appelle Paul. Ah, notre cher Paul. Paul, l'apôtre Paul. Le texte que nous venons de citer, juste au début, est tiré d'une lettre qu'il a écrite à l'église de Rome. C'est une église fondée probablement par des chrétiens convertis, par Paul et d'autres apôtres itinérants. Ces chrétiens connaissaient déjà les grandes vérités de l'Évangile et n'ont besoin que d'un rappel et d'un affermissement dans leur foi. Dans cette lettre, Paul donne une vue d'ensemble des vérités fondamentales de la foi. Quel livre extraordinaire! Allons maintenant dans notre texte de ce matin. Paul commence, donc ce Paul que j'ai décrit, commence en disant aux croyants de Rome qu'il veut leur annoncer l'Évangile. Mais qu'est-ce que l'Évangile ? L'Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle qu'il a annoncée, c'est que Jésus-Christ est le Messie, tant attendu des Juifs, qu'on voit dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Jésus-Christ est Dieu qui est venu sur terre sous forme humaine pour donner sa vie à notre place. Jésus a pris sur lui nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos désobéissances à la loi de Dieu. Il est mort pour détruire la puissance du mal, du péché, de Satan et de la mort. Il est ressuscité pour nous pardonner, nous rétablir notre relation avec Dieu et enfin nous donner la vie éternelle. Ça, c'est l'Évangile. Paul poursuit en disant qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Il n'a pas honte de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui offre pardon et vie éternelle. Quand on voit tout ce que Paul a subi, on se dit qu'il aurait toutes les raisons d'avoir honte de l'Évangile. Plusieurs personnes l'ont pris pour un fou, se sont moqués de lui, l'ont rejeté, l'ont frappé violemment, il a été plusieurs fois mis en prison, et on a même cherché tout simplement à le faire mourir. Mais Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Comment est-ce possible? Comment a-t-il fait pour continuer à annoncer un message qui est une folie pour plusieurs et qui ne lui a tiré que des ennuis? Voici sa réponse. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. J'aime beaucoup cette histoire d'un vendeur d'aspirateurs qui s'est rendu à une ferme. Une dame a ouvert la porte après avoir frappé. Il est entré. Il n'a pas attendu que cette dame dise un mot. Il lui dit « Madame, madame, je veux vous parler de cet aspirateur. Il va tout avaler dans votre maison. Vous devez faire attention pour ne pas perdre votre sol. Aïe, aïe, aïe. Il est tellement puissant. Et je vais... » La dame a essayé de dire un mot, mais le vendeur continue à parler. Il lui dit, je vais vous faire une démonstration tout de suite. Alors il sort un gros sac. Il jette par terre les ordures, la poussière, la cendre, tout. Il lui dit, madame, si cet aspirateur n'aspire pas toutes ces ordures, tout ce qu'il a par terre, toute cette poussière, je m'engage à manger toute ma vie avec une petite cuillère. Et finalement, elle a enfin eu l'occasion de parler. Elle lui a dit, « Eh bien, vous pouvez commencer à manger avec une petite cuillère. Chez moi, il n'y a pas d'électricité. Bang » Ah ouais. Il est dans une ferme, il aurait pu vérifier quand même qu'il y a de l'électricité. Il aurait dû demander s'il existe une puissance pour faire fonctionner l'aspirateur. Paul n'a pas honte de l'évangile parce qu'il connaît la puissance de ce message. Ce message n'est pas du pipeau. Paul connaît la puissance de Dieu qui se manifeste par ce message. L'évangile a déjà transformé sa vie. De persécuteur de chrétiens, il est devenu l'un des plus zélés. Et c'est l'une des personnes qui a apporté le plus de fruits dans la proclamation de l'évangile. Il a vu comment l'évangile a transformé son cœur et celui d'innombrables personnes. Plusieurs l'ont attaqué, l'ont pris pour un fou, se sont moqués de lui, ont cherché à le tuer. Mais Paul est resté plein de courage. Ce message-là, j'en ai pas honte, parce qu'il est puissant et continuera à transformer des milliers et des milliers et des milliers de vies. Il n'a pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le mot « dynamis » que je sais que vous connaissez tous, c'est un mot grec que Paul utilise pour « puissance ». On pourrait utiliser aussi le mot « dynamite ». Et donc, je vous propose ceci, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la dynamite de Dieu qui a la capacité de changer le cœur le plus dur. Mais quel est ce changement que produit l'évangile? Regardons la suite. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver. Le but de l'évangile, c'est le salut. L'idée fondamentale que véhicule ce mot, salut, est celle d'une délivrance ou d'un secours. L'évangile est donc la puissance de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, pour nous délivrer du péché, de Satan, de la mort et de l'enfer. La puissance de Dieu est indispensable si nous voulons être sauvés. Nous avons tous besoin de l'évangile qui est la puissance de Dieu pour nous sortir du péché, de la souffrance, de la mort et de l'enfer. Sans l'évangile qui est la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est impossible. Écoutez ce que la Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit une chose tellement importante. Il dit ceci dans Actes 4, « C'est en lui, en Jésus, que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Aucun. La Bible dit ici que Jésus-Christ est le seul qui puisse sauver. Il est le seul qui puisse donner accès à Dieu. Il est le seul qui puisse nous ouvrir les portes du paradis. Il est le seul. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre personne qui puisse sauver. Seul Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a le pouvoir de nous sauver du péché pour la vie éternelle. Mais que devons-nous faire pour bénéficier de ce salut ? La suite, regardez, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Paul est en train de dire que ceux qui expérimentent la puissance de Dieu pour être sauvés ont juste besoin de croire. C'est génial. Mais qu'est-ce que croire? Alors d'une certaine manière, nous sommes tous croyants. Nous croyons en un tas de choses. En fait, nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Nous faisons tellement de choses par la foi. Nous utilisons toutes sortes de moyens de transport avec un minimum de confiance. Notre voiture, les transports en commun, le train, les avions. Nous avons aussi beaucoup de foi dans l'eau que nous buvons, sur le, nous parlons de foi aussi dans, sur le pont que nous traversons, l'ascenseur que nous utilisons, les chaises aussi sur lesquelles nous nous asseyons. Vous n'avez pas vérifié ce matin? Attends, est-ce que ça fonctionne bien ce truc-là? Est-ce que la chaise va tomber? Non. Dans la Bible, il y a un terme pour cela, pisteiou. Je le dis très, très certainement très mal, et je sais que vous le connaissez. Ce mot qui est pour croire renferme l'idée fondamentale de faire confiance à, de se fier à, d'avoir foi en. Lorsqu'il est employé dans le Nouveau Testament pour désigner le salut, il est habituellement conjugué à la forme présente et continue. Et ça, c'est important d'entendre cela. Cela veut dire qu'on peut dire, quand on parle de foi, est en train de croire. Je donnais l'illustration de voiture ou d'autres choses. Si j'ai foi en ma voiture une seule fois, ben, je vais la prendre, je vais dire j'y crois maintenant, mais pas demain. Vous voyez? Et là, d'un coup, ça, ce n'est pas la foi biblique. La foi, dans les questions ici, c'est une foi qui est là aujourd'hui, qui est là demain, qui est là après-demain, qui est là toute notre vie. La foi qui nous permet d'être sauvés n'est pas une foi qui se manifeste juste un jour, mais qui se manifeste tous les jours et grandit. Mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est reconnaître que nous sommes perdus sans lui. C'est reconnaître que sans lui, nous ne pourrons jamais avoir accès à Dieu. Mettre notre foi en Jésus-Christ, c'est croire que Jésus-Christ est celui qu'il dit être, Dieu lui-même. C'est croire que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. C'est croire que Jésus-Christ est ressuscité. C'est croire que par son sacrifice, nous pouvons être sauvés du péché pour la vie éternelle avec Dieu notre Créateur. C'est tout ça. La foi. Croire que Jésus-Christ a donné sa vie pour mon pardon et pour la vie éternelle. Paul écrit ensuite, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. Alors, avec cette phrase, très certainement, plusieurs se disent, mais pourquoi Paul a dit ça? Très facile. La première chose qu'on peut dire, c'est que notre cher Jésus-Christ était juif. La deuxième réponse, eh ben, c'est que Dieu a choisi un peuple, le peuple juif. Et quand on entend ça, on se dit, ah ouais, d'accord, donc Dieu fait du favoritisme. Non, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu avait choisi ce peuple pour qu'il le connaisse et le fasse connaître. Là, la différence. Il choisit un peuple, il fait des choses extraordinaires, il se fait connaître à ce peuple, mais son but n'est pas de se faire connaître qu'à ce peuple. Mais il fait tout cela, et c'est sa pédagogie à lui, pour que les autres peuples voient le Dieu puissant qui se manifeste dans le peuple juif et se tourne vers lui. Et aussi, ce peuple avait cette responsabilité de faire connaître à toutes les nations Dieu. Mais le point vraiment touchant à comprendre ici, c'est que l'Évangile est pour tous, yes, pour toutes les cultures, pour toutes les langues, pour riches et pauvres, grands, petits, pour bien portants et malades, pour tous. L'Évangile est pour toi. Oui, mais j'ai tellement péché. Mais oui, mais j'ai fait des choses tellement horribles. L'Évangile est pour toi. L'Évangile est pour toi. Voilà pourquoi j'aime répéter ici, et avec beaucoup de joie, que l'Église d'Ozoir est une Église multiculturelle, multigénérationnelle et multisociale. Une Église avec cette richesse, parce que ben, c'est l'Évangile. Ça décrit à quel point l'Évangile et pour tous. Paul finit en disant, « En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. » Une très belle conclusion. L'évangile de Jésus-Christ nous révèle non seulement à quel point nous sommes aimés de Dieu, mais aussi la beauté de la justice de Dieu. Et à l'époque de l'apôtre Paul, les accusations à l'encontre de la justice de Dieu étaient nombreuses. La plus sérieuse affirmait que Dieu justifie l'impie, il rend juste ceux qui font n'importe quoi. Quelle injustice! Un juge qui acquitte le coupable. Il faut que la sentence tombe. Et donc, pas mal de personnes étaient là et ne comprenaient pas comment Dieu peut tout simplement acquitter le coupable. Un tel Dieu serait-il apte à juger le monde? Et Paul défend ici la justice de Dieu. Il le fait ici en disant que sa justice se révèle. Elle est tout simplement reçue par la foi et rien que par la foi. Il nous faut juste croire et Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Mais sa justice, comment elle s'applique? Eh bien, nos péchés sont tombés sur Jésus-Christ. Nos fautes sont tombées sur Jésus-Christ. Tout le mal que nous avons commis tombe sur Jésus-Christ. Et une autre chose, c'est que quand Dieu nous rend juste, c'est pour une vie juste. Et donc, parfois, on entend cette expression « Je suis croyant et non pratiquant ». Mais c'est un non-sens biblique, parce que la Bible dit « Si nous sommes croyants, nous sommes pratiquants ». Si nous avons une vraie foi en Dieu, la pratique suivra. Je suis un passionné de batterie. J'aime énormément jouer à la batterie. Alors, je peux parler de cette passion à tout le monde. Mais si je ne regarde jamais de vidéos, si je ne vais jamais regarder des concerts, si je n'écoute jamais des batteurs, et si moi-même je ne joue pas à la batterie, où est cette passion? Ma foi est vide. J'en parle, mais il ne se passe rien. Ma passion, elle ne va pas au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai foi en Dieu, la pratique va se suivre. Dieu justifie, nous rend juste devant Dieu par la foi, et encore par la foi, nous vivons une vie juste qui plaît à Dieu. Dieu nous rend juste par la foi et nous pouvons ensuite grandir en menant une vie juste qui plaît à Dieu, toujours par la foi. Je vais conclure. Obéir à la loi ne sauve pas. Venir tous les dimanches à l'église ne sauve pas. Prier tous les jours ne sauve pas. Lire la Bible tous les jours, même plus vite que le Nouveau Testament en 8 semaines, ça ne sauve pas. Faire toutes sortes d'œuvres bonnes ne sauve pas. Toutes les religions ne sauvent pas. Seul Jésus-Christ sauve. La Bible nous dit, l'évangile de Jésus-Christ est cette puissance de Dieu dont nous avons tous besoin pour être sauvés. Maintenant, Dieu appelle. Il vous appelle, il nous appelle ensemble à venir à lui. Il nous invite à placer notre foi en Jésus-Christ, à croire en lui, dans son œuvre, pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Si l'un d'entre nous n'a jamais fait la paix avec Dieu, peut-être que tu n'as jamais expérimenté l'amour de Dieu, tu entends tellement de choses et tu te dis « mais je suis tellement loin de tout ça ». Dieu t'appelle. Peut-être que tu n'as rien compris. Tu es la bonne personne. Dieu t'appelle aussi. Dieu t'appelle. Et si tu peux commencer au moins à chercher Dieu, la Bible dit que quand nous le cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Si vous êtes croyant depuis des années et qu'il vous arrive de manquer de courage pour annoncer l'Évangile, sommes face à un texte où l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Et il peut arriver à nous croyants d'avoir honte de l'Évangile, les amis. Est-ce que nous le reconnaissons ce matin? Nous avons besoin de courage. Et Dieu nous invite à retrouver ce courage dans la puissance de l'Évangile. Demandons à Dieu de renouveler notre confiance dans sa toute-puissance, dans la puissance de l'Évangile. Si vous êtes croyant et que vous êtes découragé à cause d'un péché, que vous avez du mal à lâcher ou à cause d'une épreuve que vous traversez, Dieu vous invite à trouver consolation, encouragement et force dans l'Évangile. Étonnant, quand l'apôtre Paul a dit à l'église de Rome, j'ai envie de venir vers vous pour prêcher l'Évangile, pour vous annoncer l'Évangile, il parle à des croyants, les amis. Et dans cette même lettre, il dit qu'il vient pour encourager, pour affermir dans la foi. Imaginez un peu, l'encouragement et l'affermissement dans la foi se fait par l'Évangile. nous avons besoin, nous croyons encore et encore, de l'Évangile. Je vais prier. Notre Dieu, merci de nous donner, de nous avoir donné l'Évangile, qui est ta puissance pour nous sauver du péché, de la mort, de l'enfer, pour la vie éternelle avec toi. Je te demande que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi puissent dire oui à ton amour et expérimenter ta présence et ton salut. Pour ceux qui sont croyants et qui manquent de courage pour témoigner de toi, je te demande de renouveler leur foi dans la puissance de l'Évangile. Pour ceux qui sont découragés par un péché ou éprouvés, je te demande enfin de les rendre forts par l'Évangile. Que l'Évangile continue à consoler, encourager, fortifier et transformer nos vies. Merci d'agir avec puissance par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.